Bon, c'est plus intéressant de se rappeler du contenu du séminaire que du titre. Hein, mais avant l'arrivée du jour de l'Éternel. On avait donc parlé avant de l'arrivée du jour de l'Éternel. Et on avait vu tout au long de ce séminaire que Yeshua, quand je dis Yeshua, vous savez que c'est Jésus, veut que nous soyons prêts à l'accueillir, que nous soyons prêts à accueillir l'époux. Et pour ça, il a placé des signes dans les cieux. Et ces signes dans les cieux qu'il a placés, ils ont pour but de nous réveiller parce que le siècle présent nous a endormis. Notre métro-boulot-dodo, notre système de production et de consommation nous a complètement endormis. Et dans les Écritures, donc avant l'arrivée du jour de l'Éternel, est une prophétie du prophète Joël. Et dans les Écritures, les prophéties, en réalité, quand nous lisons toutes ces prophéties, nous les voyons de face. Donc imaginez que vous voyez deux sommets de montagne de face. Donc vous les voyez comme ceci, hein. Il y a une montagne A qui est là, il y a une montagne B qui est ici. Et vous les voyez de face. Eh bien, quand on les voit de face, eh bien, c'est impossible de dire combien de distance les sépare en profondeur. Au point où, parfois, des explorateurs sont arrivés au sommet d'une montagne et ils se sont dit, la montagne continue. Non, ils sont arrivés au sommet du mont A. Et puis ils ont dit, il y a une grande vallée, et puis c'est une deuxième montagne avec un deuxième sommet. Et les prophéties, quand nous les lisons dans la Bible, nous les voyons de face. Première venue du Messie, deuxième venue du Messie. Et quand nous lisons ce texte de Joël, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, c'est-à-dire qu'il nous prévient avant. Et ce que Joël nous a annoncé, ce que Daniel nous a annoncé, ce que Yeshua a lui-même dit lors de sa première venue, et ce qui nous est rapporté aussi par ailleurs dans l'Apocalypse, c'est que la lune se changera en sang. Pas le jour de l'arrivée de l'Éternel, mais avant l'arrivée du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Et cette tétrade à laquelle nous avons assisté, donc ces quatre lunes rouges qui se sont succédées sur deux années, 2014-2015, exactement avec les mêmes jours, nous avons donc assisté à autre chose que le deuxième mont. On n'était pas pour le deuxième mont, mais on était dans la vallée. Et maintenant, je vais vous demander de voir ces deux monts de montagne en perspective. Donc, on dit aussi de profil. Et quand on regarde ces montagnes de profil, là, on est tout à fait capable d'estimer qu'il y a le sommet A, la première venue du Mashiach, et qu'il y a le sommet B, la deuxième venue du Mashiach. Mais on est capable à ce moment-là d'estimer la vallée. Et dans cette vallée, les prophètes, c'est vraiment comme ça que les prophètes ont écrit les prophéties, c'est vraiment leur système d'écriture et d'interprétation, on va y mettre un nombre X d'événements entre ces deux vallées pour que la vallée soit comblée. C'est Jean-Baptiste qui nous dit, aplanissez tous les sentiers. Parce qu'il faut qu'on puisse atteindre ce sommet, le sommet de cette montagne. Et donc, dans cette vallée, on va mettre tous des événements qui vont se succéder les uns derrière les autres, qui vont combler la vallée, et qui, du coup, nous amènera du point culminant A, la première venue du Mashiach, au point culminant B, la deuxième venue du Messie. Et la lune rouge, les lunes rouges auxquelles on a assisté, aussi en 48-49, en 67-68, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Israël, vous savez que c'est très significative, et en 2014-2015. Et nous, à quoi on a assisté ? Une des interprétations des prophètes, il dit « les lunes rouges, la lune se transformera en couleur sang ». Et je ne sais pas si vous avez fait le rapprochement, mais c'est la dernière lune rouge a eu lieu fin décembre, fin septembre 2015. On était d'ailleurs en Israël avec nos amis qui sont venus là. Et à ce moment-là, on a assisté à la dernière lune rouge depuis Israël. Et le Seigneur, par ces lunes rouges, le sang va couler. On était présent ce jour-là, le lendemain on reprend l'avion, on arrive en Belgique, on lit vague de terrorisme en Israël comme on n'a jamais vu. Vraiment des agressions violentes, des femmes, des dames de 80 ans poignardées dans les bus, des choses horribles. Et ça n'a pas traîné avant que cette horreur n'arrive jusqu'au milieu de nous. En novembre, la France a été frappée, et ainsi de suite, la Belgique, l'Allemagne, et ainsi de suite, la France une nouvelle fois. la Russie, partout, partout. On a connu, voilà, l'Éternel nous a avertis. Les nations vont être secouées. Les nations vont être secouées. Et c'est des événements qui doivent arriver parce que le mal veut essayer de se répandre et le mal veut essayer de reprendre le trône de l'Éternel. Il y a pour ça dans les Écritures une notion qui n'apparaît que dans Luc, dans la Nouvelle Alliance, le temps des nations. Et le temps des nations, c'est le temps qui a été donné aux nations, Daniel nous dit, pour régner et gouverner sur le lieu saint et le lieu très saint, à savoir, aujourd'hui on nous parle du mont du Temple dans les médias. Et Yeshua, il nous a avertis, il dit, quand vous verrez que le temps des nations a touché à sa fin, c'est alors que vous devez relever la tête et contempler que je suis bientôt à la porte. Et en 67-68, on s'est approché de cet événement. Il y a eu la guerre des 6 jours en Israël, pour ceux qui en ont entendu parler. J'imagine qu'il y avait des gens qui ont été contemporains à cette époque, moi pas. Sans critique d'âge, pas du tout. Et à ce moment-là, Israël retourne à Jérusalem. 47-48, ils sont rentrés en Israël. 67-68, ils ont de nouveau la capitale entre leurs mains. Une guerre inexplicable. Tous les grands stratèges militaires américains, tous russes, tous les plus puissants du monde, ils disent « on comprend pas comment ça se peut en 6 jours ». Ils ont éliminé, éradiqué 8 armées qui s'étaient liguées contre eux, alors qu'Israël n'est qu'un État qui a qu'une 20aine d'années. Les ennemis eux-mêmes ont dit « on a vu la main de Dieu ». Et c'est, vous avez triché parce que Dieu est avec vous. C'est eux-mêmes qui l'ont dit, les généraux de Jordanie et ainsi de suite. Ils l'ont dit. Et Moshe Dayan, le commandant de l'armée d'Israël, de Tzahal, arrive à Jérusalem et ses soldats avaient conquis Jérusalem avant. Et ils avaient hissé un drapeau d'Israël sur le lieu saint et le lieu très saint. Moshe Dayan, il arrive, il dit « Enlevez ça tout de suite ». Et là, je me dis « Mais Seigneur, pourquoi ? Pourquoi en 67-60, dans cette guerre ?» Tu as dit, ils avaient repris le lieu saint et le lieu très saint. Le temps des nations était accompli. Et dans ce questionnement que j'ai eu ces dernières semaines, ces derniers mois, le Seigneur dit non. Il dit, c'était un avertissement. Un avertissement que le temps des nations commence à toucher à sa fin depuis 48. 67-68, c'était un deuxième avertissement. Et aujourd'hui, contexte mondial extraordinaire, Trump, des grands malades, mais enfin soit, Trump, Poutine, les nations qui s'effritent petit à petit, le Brexit, et ainsi de suite. Et on voit finalement ces pieds de la statue de Daniel qui nous dit, ils ne tiendront pas parce que ce sont des alliances d'hommes. Et ça vaut rien, en gros, c'est de la terre. C'est comme si vous mettez de la terre et de l'argile et que vous allez bâtir une maison avec ça. La première pluie qui va passer ou le moindre petite secousse, ce bâtiment va s'effondrer. Parce que ce sont deux choses qui sont hétérogènes. Ils ne se lient pas comme nous pouvons nous lier entre nous par le sang d'Yeshua. Et donc voilà, on a assisté à tous ces événements depuis. Et c'est extraordinaire. Et j'ai demandé, Seigneur, quelle est la suite ? Parce qu'on est arrivé à une conclusion. Et après cette conclusion, je laisserai place aux jeunes. J'espère qu'ils sont prêts, si vous pouvez vous apprêter. La conclusion était, à l'époque de ce séminaire, en mars 2015, « Sortez de Babylone, mon peuple, sortez du milieu d'elle, afin de ne pas participer à ses péchés et de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'aux cieux et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Partez, partez, sortez de là sans rien toucher d'impur. » Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel va devant vous. Le Dieu d'Israël sera ton arrière-garde. Et Yeshua rajoute, je m'en vais, je pars aux cieux, mais je serai avec vous jusqu'au bout, je serai avec vous jusqu'à la fin, à la fin de toute chose. Quand le temps des nations aura touché à sa fin, jusqu'à ce moment-là, Yeshua sera avec nous. Mais il y a cette notion de Paul que je ne peux pas m'empêcher d'ajouter. Ce temps des nations, Paul, il nous dit, ok, les nations vont régner sur Jérusalem, ils vont souiller le lieu saint, le lieu très saint, ils vont y mettre leurs dieux grecs, les dieux du panthéon olympien, et puis ils vont même souiller le christianisme via leur paganisme. Mais Paul, il dit, pendant tout ce temps, il dit, un deuxième aspect de ce qu'est le temps des nations, il faut que les nations, que la totalité des nations rentrent dans la promesse de la grâce. Et ce temps des nations, Pauline nous dit, c'est le temps de la grâce qui a été faite aux nations. Et pendant que les nations se pensent victorieuses d'Israël, du lieu saint et du lieu très saint, pendant ce temps-là, c'est l'Éternel qui est victorieux, parce que, on va dire, sous la main, c'est la grâce qui se répand jusqu'aux extrémités de la terre. Et si aujourd'hui, vous et moi, on peut dire, Jésus est vivant, il nous a sauvés, c'est par cette victoire que nous pouvons l'affirmer. Et ça, c'est le temps des nations. Et il est d'autant plus urgent et pressant avec ces contractions. Vous savez, on décrit, les prophètes décrivent la venue du royaume de l'Éternel comme étant les douleurs de l'enfantement, les contractions d'une femme qui va donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Si vous avez eu des enfants, vous savez de quoi on parle. Chaque fois, c'est un miracle qui a été banalisé par le nombre, mais à chaque fois, c'est un miracle extraordinaire quand cet enfant est là. Et quand le royaume sera là, ce sera quelque chose d'extraordinaire. Mais le temps presse, parce que le temps des nations, le temps de la grâce touche à sa fin. Et il va venir instaurer son royaume. Il va venir régner avec un sceptre de fer, nous dit l'Apocalypse. Et à ce moment-là, il y aura des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui seront restés au dehors. Alors œuvrez, frères et sœurs, pour qu'un maximum puisse encore rentrer dans ce temps de la grâce tant qu'il est encore temps. J'aurais pas pu mieux le dire. Et il s'avère que parfois dans nos vies, même si c'est Dieu qui nous a créés, même si on l'a connu, bien évidemment ici la scénette parlait de l'idylle de la création, et puis malheureusement il y a eu la chute, cette chute terrible qui nous a enfermés jusqu'à aujourd'hui dans 5 à 6 000 ans de péché, de séparation d'avec l'Éternel. On était face à face avec lui, on était dans la création, il a créé toutes ces choses pour nous. Et puis, parfois dans notre vie, même si on le connaît et qu'on est déjà reconnecté avec lui spirituellement, il y a des choses qui viennent se mettre entre lui et nous. Les plaisirs de ce monde, les plaisirs de la Babylone, l'impure. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, le dimanche matin de ce mars 2015, on avait fait le séminaire vendredi, samedi, le dimanche matin, j'avais pu vous partager aussi la parole. Et le message que l'Éternel avait vraiment très clairement mis sur mon cœur ce jour-là, c'est « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit ?» Message dans lequel le sang de Jésus est mis en évidence pour faire comprendre au lecteur l'importance de la valeur inestimable de l'acte de Yeshua. Lorsqu'il a livré sa vie, pour que nous soyons reconnectés avec lui, pour que ses envies, de toutes sortes d'envies du monde, ne puissent pas nous atteindre et nous toucher. Et quand le temps a passé, j'ai eu une année assez difficile, et puis c'est un peu, devoir suivre des formations obligatoires afin de pouvoir continuer mon métier et ainsi de suite. C'était assez compliqué, j'ai été surchargé. Mais ce qui est magnifique, c'est que justement, c'est quand on est dans ces eaux profondes et sombres que l'Éternel nous donne des bénédictions qui sont au moins à la hauteur pour nous ramener tout en haut. Et pendant ce temps, je me suis dit, Seigneur, et puis j'ai recontacté Bruno, ça faisait un petit temps, il me manquait. Et j'ai contacté Bruno et j'ai dit, Bruno, écoute, voilà, tout mon emploi du temps, c'est voilà, et je voudrais vraiment, hein, pour les principes que j'ai évoqués, pour les causes que j'ai évoquées tout à l'heure, on sent vraiment une connexion avec Betsalel, Beth Yehoshua sent vraiment une connexion avec Betsalel. Et voilà, si jamais à l'occasion, je pourrais vous servir, si vous avez besoin de moi, je pourrais encore venir avec beaucoup de plaisir. Et il m'a dit, ok, on arrange ça. Et puis là, je me suis questionné, je me suis dit, mais Seigneur, quoi concrètement depuis mars 2015 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ok, on a parlé des lunes rouges, on a parlé de la vague. Mais dans nos vies personnelles, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Que s'est-il passé ? En quoi j'étais encore amené à me rapprocher un peu plus de toi. En quoi mon temple est encore un peu plus purifié pour recevoir la présence de ton Saint-Esprit, afin que, et c'est là où c'était extraordinaire ce que Bruno il a dit tout à l'heure, afin de ne pas attrister ton Saint-Esprit. Et je me suis posé ces questions pour moi-même, pour faire le bilan. Je dis, Seigneur, c'est bien beau, je vais faire des séminaires, je vais faire parler, on fait des études bibliques, tout ça, c'est génial. Mais s'il n'y a rien qui en découle, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu ces heures où, ouais, c'est ok, c'est bien sympa, on était ensemble, j'aurais préféré qu'on aille manger un bout alors. Plutôt que de consacrer ce temps-là à ça, s'il n'y a pas de fruits, si cela ne porte pas de fruits concrets, eh bien c'est malheureux. Tout d'abord, dans nos vies personnelles, dans nos maisons, dans notre famille directe, femme, enfant, dans nos communautés, la famille élargie. Alors je me suis dit, Seigneur, clairement, où est-ce qu'on en est ? Et puis, j'ai questionné le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, cette conclusion, elle est belle, on l'a lue, on l'a relue des centaines de fois. Sortez de Babylone, mon peuple, sortez, ne participez pas à ces péchés, ces impuretés. Yeshua nous rassure, je serai avec vous. N'ayez pas à craindre. Moïse, il doit aller voir Pharaon, il est comme ça. Mais Seigneur, je bégaye, Pharaon, non, je peux pas. Le Seigneur, il dit, Moïse, c'est pas important si tu es grandiloquent ou pas. Je serai avec toi. C'est pas toi qui vas faire que, c'est moi qui vais faire que. T'as pas compris, Moïse, réveille-toi. Et là, Moïse, après on connaît tous la suite, il a triomphé. Est-ce que Moïse a triomphé? Ou est-ce que l'Éternel a triomphé au travers de Moïse? Et pour nous, c'est exactement la même chose. On est devant cette grande Babylone impure. Le vent commence à tourner dans les nations. Et deux questions j'ai posées très clairement au Seigneur. Ok, Seigneur, mais Seigneur, sortir de Babylone, c'est bien beau, c'est bien écrit. Oui, mais comment? Voilà, je veux dire, je vais arrêter. Seigneur, on va arrêter les beaux discours. Comment, concrètement, Seigneur, sortir de Babylone? Et deuxième question qui m'était venue par rapport à ce dimanche, par rapport à ce message du dimanche matin, c'est Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit, c'est important. Pas à n'importe quel prix, un prix inestimable, je vous rappelle qu'il s'agit du sang que Yeshua a versé pour nous. Mais qu'est-ce que cela implique? Je suis le temple du Saint-Esprit, ça implique quoi? D'accord Seigneur, merci de cette promesse, de cette alliance extraordinaire, la nouvelle alliance, c'est ça, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Merci Seigneur, mais ok. Et ce qui est quand même génial, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, c'est que notre Père qui est aux cieux, eh bien il est attentif aux questions de ses enfants. Il n'a pas l'oreille dure, il n'est pas la malentendance. C'est pas comme ces faux dieux qui répondent pas aux questions qu'on pose parce que c'est du bois, c'est de la pierre. Non, lui, c'est un être et il est vivant. Alors, il entend nos questions. Et la deuxième chose qui est extraordinaire avec l'Éternel, c'est qu'il a réponse à tout. J'ai pas réponse à tout. Vous n'avez pas réponse. Mais lui, il a réponse à tout. Et ce questionnement, sortir de Babylone, oui, mais comment? Je suis le temple du Saint-Esprit, merci. Mais qu'est-ce que cela implique? Et l'Éternel, l'année passée, il a dirigé mon cœur vis-à-vis d'un livre en particulier qui est difficile à lire et à comprendre quand on le lit pour la première fois. Ou si on le lit de manière occasionnelle, c'est-à-dire simplement si de temps en temps on fait un petit grignotage de cette parole. Et là je me suis dit, c'est difficile à comprendre. Je vous donne des indices, j'ai envie que vous devinez. Je ne vais pas vous le révéler, devinez, cherchez avec moi s'il vous plaît. Et je dis, c'est difficile à lire et à comprendre parce qu'il y a une grande différence de culture par rapport à quand ce livre a été écrit. Forcément, ce livre nous a précédés. Tous ces principes nous ont précédés. Et c'est difficile à comprendre parce que nous n'avons jamais expérimenté le fait de devoir aller avec notre animal jusqu'au tabernacle, aller voir le souverain sacrificateur ou le sacrificateur et dire, voilà, je t'apporte cet animal parce que j'ai péché contre mon frère ou j'ai péché contre l'Éternel. Sacrifie-le, verse son sang afin que je sois pardonné aux yeux de l'Éternel. On n'a jamais dû faire ces choses-là. On ne sait même pas. Imaginez, hein. Je ne sais pas si vous savez comment l'Éternel a disposé le camp. Il a mis le tabernacle au centre. Il a mis les Lévites en ceinture autour du tabernacle. Et puis, à l'extérieur, il a mis les 12 tribus. Et tous ceux des nations qui s'étaient joints à eux pour la sortie d'Égypte. Et quand vous avez péché, imaginez que vous êtes à l'extérieur du camp, il y a tous vos frères et sœurs de tribu qui sont là, et vous êtes là avec votre biquette, tout le monde sait où vous allez. Hein. Tout le monde sait que vous vous dirigez vers le tabernacle parce que vous avez péché. Imaginez le regard. de vos frères et sœurs pesant sur vous, pas forcément des regards de jugement, peut-être des regards de compassion, vos frères et sœurs, mais en tout cas, tout le monde vous voit. Il n'y avait pas moyen de faire ça en secret, hop, oh, tout va bien aujourd'hui, hop, 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 ça va très bien, tiens, sacrificateur, je m'en vais. Non, c'est pas comme ça que ça se passait, tout le monde voyait. Et puis, vous devez vous expliquer avec le sacrificateur, le souverain sacrificateur, qui, eux-mêmes, par là, vous enseignaient, parce que c'était les seuls qui enseignaient la parole de Dieu à l'époque, ils vous enseignaient la parole, les principes, tu as enfreint tel principe, pour ne plus l'enfreindre, fais ça, et il leur disait généralement, va et ne pêche plus, quand ils apportaient ce sacrifice. Et comme on n'a pas connu ce système, on a du mal avec ce livre. Dernièrement, j'ai fait un exposé sur le berger et la bergerie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Source scientifique. Comment fonctionne une bergerie ? Comment fonctionne un troupeau ? Et là, mes yeux se sont ouverts sur les paroles du Messie. Parce que malheureusement, dans notre ère, dans notre temps, on ne peut plus croiser un troupeau en sortant de l'église et dire « Ah, c'est comme ça que ça fonctionne une bergerie ». Et pour le tabernacle, c'est la même chose. Alors, je ne sais pas si vous voyez vers quel livre on se dirige tout doucement, mais son contenu, je vais vous donner encore quelques détails. On nous donne le détail des sacrifices. On parle de la consécration des prêtres. On parle de ce que l'Éternel considère rituellement pur ou rituellement impur. Ce qui n'est pas forcément un péché. Mais l'Éternel nous recommande de sortir de Babylone sans rien toucher d'impur. Il n'est pas question de péché. Être rituellement pur ou être rituellement impur. Et ensuite, dans ce livre, il se clôture sur tous les principes d'une vie sainte. Et c'est là où vous lisez des choses extraordinaires comme « Aime ton prochain comme toi-même ». Avez-vous deviné de quel livre on parle ? Du livre du Lévitique. Le livre du Lévitique, j'aime bien cette appellation parce que c'est très concret. On parle des Lévites dans ce livre. Donc il y a quand même un sens au fait que ça soit appelé comme ça. En hébreu, il se nomme le Vayikra. Vayikra en hébreu, ça ne veut pas dire Lévite. En hébreu, Lévite, on dit Lévi ou Kohen. C'est ça les sacrificateurs à l'époque. En hébreu, il s'appelle le Vayikra. Vayikra, c'est ceux qui sont appelés. Ceux qui ont été appelés. Appelés à quoi ? C'est quoi le livre d'avant ? La sortie d'Égypte. Ceux qui ont été appelés à sortir d'Égypte, eh bien voilà comment vous vivrez dorénavant. Comme des sacrificateurs. Et là, je dis, waouh, Seigneur, merci de m'éclairer. Et si aujourd'hui vous voulez en savoir plus sur la consécration et la sacrificature à celui qui nous aime, qui a donné son sang, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. C'est dans quel livre ? Apocalypse, premier chapitre. Donc vous voyez que c'est pour les temps de la fin, la sacrificature. C'est pour les temps de la fin, la sacrificature. Pour ceux qui veulent mieux comprendre le sacrifice qu'ils présentent à Dieu, le sacrifice qu'ils offrent à Dieu, Jésus n'est pas simplement mort pour nous pardonner de nos péchés. Il a versé son sang pour faire de nous un royaume de sacrificateurs. Son sang qui a coulé n'a pas qu'une seule application dans nos vies. Paul nous dit que le mystère de la croix, il est profond, il est large, il est haut. Personne ne peut le sonder. Tellement son sang qui a coulé. Et aujourd'hui, oui, et merci Seigneur parce que sans ça, il n'y aurait pas de début à rien. Et aujourd'hui, depuis des siècles, on prêche uniquement un seul aspect du sang du Messie qui a été versé. Et je pense qu'aujourd'hui, l'Éternel il nous a dit, dans la fin des temps, la connaissance augmentera. La sanctification augmentera. Et vous comprendrez. Et aujourd'hui, on n'est plus à même de comprendre tous les aspects de pourquoi Yeshua a versé son sang. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur les sacrifices qu'on offre à Dieu, pour ceux qui veulent en savoir plus sur comment être rituellement pur ou rituellement, qu'est-ce que ça implique d'être rituellement impur, les principes d'une vie sainte, pour ça le Lévitique, c'est la bonne adresse. La parole de l'Éternel qui a été révélée dans ce livre vous apprendra comment ne pas participer au péché de Babylone l'impur, et comment ne pas participer à l'impureté de Babylone l'impur, à la souillure de Babylone l'impur. Et être sacrificateur, c'est ça votre porte de sortie de Babylone. Vivre comme des sacrificateurs. Vous ne participez plus, vous n'êtes plus dans cette Babylone. Vous vivez autre chose. Et le livre du Lévitique, il commence là où s'arrête le livre de l'Exode. Ah, merci Lucas d'être venu, on l'ignorait. Enfin, soit. Si je dis ça, c'est qu'il y a un autre sens, bien évidemment. Le sens de cet Exode, c'était sortir d'Égypte. C'est ça l'Exode. Le peuple est sorti d'Égypte. Physiquement, ils sont sortis d'Égypte. On n'est plus en Égypte, on n'est plus esclaves. Et le livre de l'Exode se termine sur un événement extraordinaire pour ceux qui l'ont déjà lu. Dieu, l'infiniment grand, celui que même nos technologies les plus puissantes ne peuvent sonder jusqu'à aujourd'hui dans les cieux, l'infiniment grand, s'est fait infiniment petit pour venir habiter au milieu de son peuple dans un tabernacle. Et on nous dit, la terre tremblait, une colonne de feu extraordinaire, et il était là, au milieu des siens. Ce n'est pas une représentation de l'Éternel. Ce n'est pas l'Éternel, voilà, je fais semblant que je... Non, il est là, dans cette flamme de feu, il est là en personne. Lisez le récit au sujet de cette colonne de feu, vous allez voir qu'il y a l'être, l'Éternel, il est dans cette flamme de feu, au milieu de son peuple. Et forcément, vous savez que c'est un événement extraordinaire. Et quand Dieu habite au milieu de nous, on ne se comporte pas n'importe comment. Ce qui est impur à ses yeux est impur à mes yeux. Ce qui est la souillure de Babylone l'impure n'héritera pas de la présence de l'Éternel. Et le problème, c'est que si cette souillure elle est attachée à notre chair, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, le peuple vit dans la présence de Dieu, pas n'importe comment, il y a des règles. Et si le sens de l'Exode était de faire sortir le peuple d'Égypte, ce livre du Lévitique, le livre de ceux qui ont été appelés, appelés à vivre dans la sanctification, appelés à suivre Yeshua, eh bien il a un autre but que l'Exode, forcément. On ne va pas faire deux fois l'Exode. Mais le livre du Lévitique, il a pour but de faire sortir l'Égypte du peuple. Le peuple est sorti d'Égypte, mais est-ce que l'Égypte est sortie du peuple ? Vous avez déjà probablement entendu ces réflexions et des grands commentateurs qui ont poussé ces réflexions. Je trouve ces réflexions vraiment très très belles, très pertinentes. Et là, on se questionne. C'est beaucoup plus dur, finalement, que l'Égypte sorte de nous que de sortir. Les commentateurs, ils ont dit, ça a été plus dur pour l'Éternel et Moïse de faire sortir l'Égypte du peuple plutôt que de les faire sortir d'Égypte. Parce que sortir d'Égypte, même que c'était 10 plaies, des choses extraordinaires, l'Éternel, c'est comme ça. Il dit et la chose, elle arrive. Sauterelle, la chose elle arrive. C'était pas, ça pour l'Éternel, pour, ça c'est pas compliqué pour l'Éternel. Ce qui était plus compliqué, c'était de faire sortir l'Égypte du peuple. Et ça c'est le but du livre du Lévitique. Faire sortir Babylone l'impure du peuple. Et ce qui est extraordinaire, c'est que toutes ces pratiques abominables dans lesquelles ils ont vécu, ils étaient en Égypte, pas tout à fait, parce qu'ils étaient à Goshen, mis à part. Mais malgré tout, cette culture égyptienne les avait souillés. Et à grand nombre de reprises, dans le Lévitique, vous allez lire « Vous ne vous comporterez pas comme vous avez vu en Égypte. » De cette sorte, par exemple, l'Éternel donne des lois sur les relations sexuelles. Il dit « Un fils n'ira pas vers sa mère. » Chose très courante en Égypte avant. Quand il dit « n'ira pas », c'est avoir une relation avec sa mère. Donc, voilà. Et l'Éternel, il dit « Ça, mon peuple, non. » Vous ne ferez pas ça. Je vous l'interdis formellement. Ceux qui portent mon nom ne feront pas ça. Ils souilleraient mon nom aux yeux des nations qui les observent. Donc vous ne ferez pas ces choses-là. Et il est indispensable pour l'Éternel aussi dans ce livre du Lévitique de se faire connaître à la terre entière. Mais c'est une grande responsabilité pour le peuple de donner la bonne image de l'Éternel. Et quand il dit « Vous ne m'adorerez pas sous un chêne verdoyant », ce n'est pas simplement une interdiction bête que l'Éternel y met sur son peuple. Mais l'Éternel, son souci, l'esprit de cette loi, c'est « Je ne veux pas être associé au Dieu des Cananéens ». Quand les Cananéens vous regarderont, si vous rendez un culte sous un chêne verdoyant, ils diront « Ah ben ils font comme nous, ils adorent les mêmes dieux que nous ». L'Éternel dit ça, je vous interdis. Que ce soit dans le culte, que ce soit dans la culture, un fils n'ira pas vers sa mère, je vous interdis d'être comme eux. Vous souillerez mon nom. C'est-à-dire que par vos actes, vous me lierez, vous mélangerez le pur et l'impur. Vous mélangerez Dieu et les Baals. Et Paul aussi reprend tout cet esprit de cette loi. Et aujourd'hui, il est indispensable que nous fassions la différence aux yeux du monde. Aujourd'hui, quand on parle d'évangélisation, quelquefois on tombe sur des gens qui sont durs, qui ont le cœur endurci. On dit, mais pourquoi tu ne veux pas te laisser? Pourquoi tu ne veux pas venir à Dieu? Pourquoi tu ne veux pas devenir croyant? Il dit, les croyants m'ont planté des couteaux dans le dos. Ils ne sont pas mieux que moi. Et là, on se rend compte, tiens, je lui ai donné une mauvaise perception de c'est quoi croire. Par la même occasion, j'ai souillé le nom de Dieu à ses yeux. Si par exemple, prendre un exemple qui ne va pas faire un sujet de débat ou de polémique, ça va être assez difficile à trouver. On va inventer, on va partir d'autre chose. Admettons que fêter son anniversaire, c'est une tradition purement païenne, liée à Satan. Le jour où un chrétien fête son anniversaire, celui du monde qui sait que cette tradition est complètement impure, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Il est en train de souiller, par son acte, il est en train de souiller la perception que l'autre doit avoir de Dieu. Il dit, ah ben, regarde, c'est interdit, normalement ce truc-là, ça ne parle pas de Dieu, et eux, ils le font quand même. Donc, nous lions ce qui est pur et impur. Et pour cette raison, l'Éternel va donner toutes ses paroles à son peuple. Il va leur apprendre ce qu'est un culte approprié pour lui, parce qu'ils ont été pollués par la façon de vivre des Égyptiens. Il va leur apprendre ce qu'est un sacrifice, ce qui n'en est pas un. L'Éternel dit, vous sacrifierez pas vos nouveau-nés pour moi. Hein. Il dit, ça c'est en l'honneur du dieu Moloch. Moi je veux pas être associé à ce démon. Moi je suis le seul, l'unique et le véritable. Vous ne passerez pas vos enfants par le feu en mon honneur. Magnifique. Alors là on comprend vraiment qu'il y a quelque chose que l'Éternel veut nous amener à vivre dans un culte et dans une culture sainte. Et c'est aussi par notre culture qu'on honore Dieu. Quand vous remarquez d'ailleurs la proximité de ces deux mots, culte, culture. Quand par exemple, il y a un mort dans ma famille et que je décide de ne pas faire un coin chauve sur ma tête en l'honneur de ce mort, ou que je décide de ne pas écrire son nom sur mon bras et la date de sa mort, et nani, nana, eh bien, parce que aujourd'hui c'est permis, et dans la culture on voit, bah, prenons l'exemple du tatouage, je ne veux choquer personne, je juge personne, mais il y a des gens qui, quand quelqu'un décède, mettent le nom ou font carrément le visage du papa ou de l'être cher qu'ils ont perdu et marquent la date de la mort, la date de la naissance et la date de la mort en dessous. C'est un culte aux morts. Et ça rentre dans notre culture, c'était bien déjà là avant, et ça rentre de nouveau dans notre culture. Mais quand moi je décide de m'abstenir, non, je ne pratiquerai pas ça, par ce refus, j'honore Dieu, je lui rends un culte. Rendre un culte, c'est honorer Dieu. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est amener un honneur, un hommage à Dieu. Et quand j'évite de faire ces choses-là, j'honore l'Éternel. Par notre culture, nous rendons un culte à l'Éternel. Dans les choses qu'il nous a demandé de ne pas faire, généralement ce n'est pas trop difficile, mais aussi dans les choses qu'il nous a demandé de faire, on l'honore. Il n'y a pas que les commandements négatifs, il y a les commandements positifs qui nous amènent à agir. Alors, le rapport avec nous aujourd'hui, il est évident. Si vous avez dit oui à Christ, si vous avez dit oui à Mashiach un jour dans votre vie, vous avez entamé un exode, une sortie, vous êtes sorti d'où ? Vous êtes sorti d'Égypte, vous êtes sorti du monde, vous êtes sorti de Babylone l'impure. Un événement extraordinaire a eu lieu. L'Esprit de Dieu est venu habiter au milieu de vous. Pas au milieu, à l'intérieur, dans l'homme intérieur, au plus profond de moi-même, il est venu habiter. Événement extraordinaire. Et quand Dieu vient habiter en nous, si on ne veut pas l'attrister, on ne se comporte plus comme quand on vivait dans le monde, dans l'Égypte, dans Babylone. Ou en tout cas, là il y a une notion très importante, nuance très importante, parce que je sens un poids de culpabilité que l'ennemi essaye de mettre. Il y a une notion importante, vous êtes en cours de transformation. Le jour où vous avez dit « Oui, Seigneur Jésus, je t'accepte », vous entamez un exode. L'exode, ce n'est pas fait en un jour. L'exode, ça a été un cheminement, des épreuves, des leçons de vie. Seigneur, on voudrait retourner en Égypte. Ça a nécessité la mort d'une génération qui a échoué dans cette quête. Ça a nécessité toutes ces choses. Et puis seulement bien plus tard, des années, 40 ans en désert, Moïse va exhorter une dernière fois cette deuxième génération au désert. et sous Yehoshua, Josué, qui en hébreu s'écrit exactement de la même manière que Yeshua, et sous Yeshua, ils sont rentrés dans le royaume de Dieu, la terre. Cette terre, c'est la portion du royaume de Dieu sur terre, c'est sa portion, portion qu'il a réservée à son peuple et à ses saints. De toutes les 144 000 et toutes les tribus, toutes les langues de la terre sont réunies là-bas un jour. Et là, ils rentrent sous la main, la gouvernance de Yeshua, de Yehoshua, ils rentrent en Eretz Israël. Et aujourd'hui, c'est en cours d'accomplissement chez nous. On devient des hommes et des femmes accomplis en Christ. C'est ça le but de l'accomplissement, c'est un cheminement. Nous sommes sortis du monde Babylone, l'Égypte. La question que je voudrais vous poser maintenant, c'est une introspection personnelle que je vous demande de faire. Mais est-ce que Babylone est sorti de nous ? Nous sommes sortis du monde, mais est-ce que le monde est sorti de moi ? Je suis sorti du monde, mais est-ce que le monde est sorti de ma façon de penser, de considérer les choses, de considérer mon prochain ? Parce que vous êtes sortis du monde, c'est l'Exode. Le monde qui sort de vous, c'est la vie de sacrificateur. Sacrificateur selon le cœur de Dieu. Et Dieu, s'il nous demande de sortir du milieu d'elle, c'est parce que nous étions au milieu d'elle. Et forcément, nous avons été influencés par sa culture et par le culte de Babylone l'impure. C'est pour ça qu'il est indispensable qu'elle sorte de nous. Et je place dans cette culture de Babylone l'impure la religion des hommes, dénomination toute confondue. Dans cette Babylone impure, je place la religion des hommes. Même s'ils semblent rendre un culte, même s'ils semblent avoir une culture en l'honneur de l'Éternel, creusez, cherchez par vous-même. Quand je vois que la fête de Pâques, c'est le sang de l'agneau, et qu'aujourd'hui on parle de fertilité, d'œufs en chocolat, de lapins, excusez-moi, vous savez comment ça se reproduit un lapin ? Je ne vois pas le lien avec le sang de l'agneau de mon Messie immolé. Donc, même si leur culte semble être un culte, et que leur culture, parce que la fête fait partie de la culture, semble en l'honneur de l'Éternel, je pense que c'est plutôt en l'honneur d'Astarté, la déesse de la fertilité, qui fait partie du paganisme romain. Donc aujourd'hui, nous devons sortir. Dieu va réprimer tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et il le dit, je commencerai par ma maison. Nous ne devons pas, dans ce que je vous dis aujourd'hui, frères et sœurs, ne voyez pas un coup de bâton que j'essaye de vous donner pour vous faire avancer. Loin de là. La religion à coup de bâton, c'est fini depuis longtemps. D'ailleurs, ça en a refroidi plus d'un. Je ne veux pas non plus que vous voyez, excusez-moi l'expression, je ne veux pas non plus que vous voyez la carotte qu'on met devant le nez de l'âne pour le faire avancer, bien que vous ne soyez pas des ânes, très clairement, c'est une expression. Mais la religion, la religion c'est peut-être ça, la foi c'est pas ça. L'Éternel ne se contente pas d'agiter une carotte pour qu'on suive bêtement. Notre but c'est la carotte ou notre but c'est celui qui tient la carotte ? C'est différent. Et aujourd'hui je voudrais vraiment que, plutôt que de voir des réprimandes, je voudrais que vous voyiez une main tendue de Dieu à chacun d'entre nous ici présents. Et que par la persévérance et une recherche continuelle de la sanctification, il nous libère de tout ce qu'il n'est pas à sa gloire. Quand il dit « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance », est-ce que vous croyez que ça l'amuse ? Et vous croyez que c'est un jugement qu'il est heureux d'émettre ? Moi, je vois l'Éternel qui pleure en disant ça. Je ne vois pas l'Éternel qui fait « Oh, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, bien fait pour eux, tant pis, je les jugerai. » Non, je vois l'Éternel qui pleure, qui dit « Mon peuple périt, mon fils, ma fille, meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Ça ne le réjouit pas. Et la connaissance, on va la trouver dans le livre du Lévitique. « Vous serez saints parce que je suis saint. » Ça, c'est le cœur du Lévitique. Le Lévitique, qui est le cœur de la Torah, qui est le cœur du Pentateuque, c'est lui qui est mis au milieu. Et c'est là tout le but du Lévitique, d'être le cœur de nos vies. Alors si vous apprenez à vivre à la façon de Dieu, vous serez purs et saints. Vivre saintement devant Dieu, l'adorer cultuellement et culturellement d'une façon appropriée. Et c'est la dernière réforme que nous connaîtrons avant la venue du Mashiach. Quand l'Éternel verra sur la terre un royaume de sacrificateurs qui vivent cultuellement et culturellement d'une manière pure, il dira à son Père, qui est dans les cieux, c'est écrit dans Jean, « Père, regarde, ceux-là nous font une place pour que nous allons habiter au milieu d'eux. » Ils ont consacré une place pour que nous habitions au milieu d'eux. Viens, Père, on va aller habiter avec eux. Et là, l'Éternel, il descend, l'Éternel, il vient au milieu de nous. Alors, je vais conclure, je regarde ce que je peux sauter. Il y a une dernière chose que je veux vous partager, et la conclusion. L'Éternel, par ce livre, et dans la chronologie de ce livre, de comment il est écrit, c'est extraordinaire. Qui sait par quoi commence le livre de Lévitique ? Les premiers chapitres, à quoi ils sont consacrés ? Les sacrifices. Et là, c'est extrêmement important. Le livre du Lévitique commence par les sacrifices. Ce qui vous purifie, ce qui vous pardonne de votre péché, c'est pas votre attitude. Ça, c'est de la religiosité. On n'en a pas besoin. Non, merci. On a déjà donné. On n'y croit plus. Ce qui me purifie, c'est le sacrifice d'abord. Et c'est dans la chronologie même du livre du Lévitique. Et une fois que notre robe a été blanchie dans le sang de l'agneau, Yeshua y rajoute ceci, « Ne vous ruez plus dans la boue avec les porcs. » Et là, toutes les règles pour vivre une vie sainte, elles nous sont données. Donc Yeshua, il nous donne un manuel pratique afin qu'une fois purifié par le sang de l'agneau, on ait pu se rouer dans la boue avec les porcs. Ce n'est pas parce que vous vous abstenez personnellement sans être passé par ces sacrifices d'aller vous ruer dans la boue avec les porcs que vous serez digne le jour où il paraîtra. Parce que même si vous n'êtes pas vraiment rué, ils vous ont au moins éclaboussé ces porcs. Et notre robe doit être blanchie par le sang de l'agneau. Sans ça, vous rentrez dans un cheminement religieux, monastique, sans juger les moines, mais quelque chose qui vient de moi. Je vais me purifier. Mais depuis Adam et Ève, tu ne peux pas te purifier par toi-même. Arrête, ne te fatigue pas, je te purifierai. Et le livre du Lévitique joue un rôle central au quotidien dans la vie spirituelle du peuple. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a fait de ce livre ? Qu'est-ce qu'on a fait de ces paroles ? Est-ce qu'on les a oubliées ? Est-ce que nous pouvons aujourd'hui, dans un monde, merci pour l'histoire de la flamme, dans un monde qui nous éclabousse avec ses cendres, avec ses ténèbres, ils veulent venir étouffer la flamme. Et hier, je partageais à l'Assemblée un enseignement que notre frère Franck nous avait donné concernant les vieux poêles au charbon. On prend le tisonnier au matin et on secoue. Ça a pour but de faire quoi ? De faire tomber les cendres qui se sont accumulées comme une croûte autour de la flamme avant que la braise ne s'éteigne. Et aujourd'hui, l'Éternel, il emploie ce tisonnier, il veut nous secouer. Les nations sont ébranlées, les nations sont secouées afin que ces scories du monde qui sont venues se mettre sur nous, il va les souffler et la flamme va reprendre. Et ça, aujourd'hui, c'est ce que nous demandons. On ne peut pas se passer de ce standard de sainteté. Et aujourd'hui, plus qu'une lettre écrite qui n'a jamais rien changé dans la vie de personne, c'est pour ça que tous ceux qui sont venus avant nous, ils ont échoué, la lettre ne transforme pas, l'esprit vivifie. Et Paul, il nous dit, la lettre de la loi, elle tue. Mais l'esprit de la loi, il vous apportera la vie. Et qu'est-ce que je dois comprendre par esprit de la loi ? Eh bien, c'est que dans ce livre de Lévitique, vous savez, il n'y a aucune prescription vis-à-vis de Facebook. Pourtant, je peux vous garantir que si vous employez mal Facebook, vous vous souillez et la scorie du monde vient et vise à toujours un peu plus éteindre ce charbon qui brûle en vous. Et Paul, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Et je viendrai à ma conclusion après. Paul, ce qu'il fait avec les Corinthiens, quand il dit « Il est honteux pour une femme » de ne pas avoir la tête couverte à Corinthe. Pourquoi ? Parce que du temps des Corinthiens, les prostituées sacrées se rasaient la tête pour mettre des ornements de prostituées sacrées. Elles étaient dans un temple, des hommes débauchés allaient vers ces prostituées sacrées, faisaient une offrande, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec une prostituée ? Ils faisaient. Et ils pensaient par là rendre un culte à l'Éternel, en tout cas à leur faux dieu. C'est comme ça qu'ils rendraient un culte à Astarté, la déesse de la fertilité. Et l'Éternel, et Paul, quand il dit à ces femmes, il est honteux lorsque nous nous réunissons, que vous soyez avec cette traite rasée, parce qu'on sait ce que ça signifie. On sait que tu es une prostituée. Et comme on ne souhaite pas que le nom de Jésus soit lié à ce type de pratique, voile-toi, couvre-toi la tête. Dans ce contexte-là, Paul, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'écrire un Lévitique. Il est en train d'écrire son Vayikra. Il est en train d'écrire le Lévitique de ceux qui habitent à Corinthe et comment, par la culture des Corinthiens, ne pas souiller le nom de l'Éternel. Ne pas assimiler le seul, l'unique, le trois fois saint à tous ces Baals, ces Astartés, ces Zeus, tout ce que vous avez envie. La sanctification du nom de Dieu et de l'Éternel. Et Paul, il nous dit, écoutez bien, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher, c'était Machiar. Écoutez, ce mets, il fait mal. Ce n'est pas un mets délicieux, c'est un mets qui casse. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Ils ont bu Christ et la plupart d'entre eux n'ont pas été agréables à Dieu. C'est pourquoi ils périrent dans le désert. Ils sont morts dans cet exode qu'ils avaient entamé. On peut mourir dans notre sortie du monde qu'on a entamée si on n'arrive pas à l'état de sacrificateur accompli en Christ. Et Paul nous dira, or, ces choses sont arrivées. Donc, ça a coûté la vie des gens. Ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais dires comme ils en ont eu. Et là, Paul va citer une liste de choses. Et puis, il prend sa conclusion, il dit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles sont écrites pour que notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, Paul pense être parvenu à la fin des siècles. Si Paul n'était pas parvenu, lui, à la fin des siècles en son temps, nous, on est plus à la fin des siècles que Paul n'a été à la fin des siècles. Et Paul, il dit, ces instructions, elles sont écrites pour ceux qui sont arrivés à la fin des siècles. Le livre du Vayikra, il n'a pas été écrit pour les Lévites et les Cohènes. Le livre du Vayikra, il a été écrit pour vous et moi qui sommes très proches de la fin des siècles. Ces deux montagnes qu'on voit sans vraiment pouvoir estimer la vallée parce qu'on les voit de face. Ainsi donc, que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Et l'Éternel m'a dit, sortir de Babylone, Vayikra, je t'appelle à sortir de Babylone. Le livre des appelés. Comment vivre comme un sacrificateur, Vayikra. Et je vous dis, il y a des choses là-dedans qui peuvent nous paraître désuètes aujourd'hui. Abstenez-vous de penser qu'elles le sont. Parce qu'on ne vit plus dans la même culture, on ne vit plus dans la même société, donc forcément il y a des choses qui sont écrites qui ne nous concernent pas, nous, ni de près ni de loin. Mais il y a toujours, si vous regardez la lettre de la loi, ça peut vous paraître désuet. Si vous voyez l'esprit de la loi qui est sous la surface, là vous allez comprendre des choses. Comme par exemple, ne taille pas le coin de tes cheveux en l'honneur d'un mort. Ben oui, c'est plus dans notre culture, on le fait plus. Mais, et là je me remets en question, je dis, Seigneur, mais est-ce que moi, dans ma façon de vivre aujourd'hui, les enterrements, le deuil, et ainsi de suite, est-ce que quelque part je n'ai pas de garder une trace d'une culture païenne? Ou est-ce que je suis en accord avec toi? C'est ça l'esprit de la loi derrière, ne taille pas le bord de ton cheveu. C'est, l'Éternel, il nous invite à tout ce que nous vivons, que ce soit les naissances, pendant le temps qu'on est là, quand les êtres chers, nos proches nous quittent, il y a un esprit derrière toutes ces choses qui ont été écrites. Noir sur blanc. Et ce qui va changer notre être, c'est le fait de serrer cette parole vivante en nous. Parce que la parole a été écrite, mais Jean nous dit, elle a été faite chair, et elle est venue au milieu de vous, et vous l'avez contemplée. Cette parole vivante. La Torah écrite a été la Torah vivante et elle est venue habiter au milieu de nous. Et aujourd'hui, spirituellement, il peut encore prendre toute la place en nous. Bon, ça, c'est fini, c'était avant. Ça, c'est aujourd'hui. Prendre toute la place en nous. On veut beaucoup d'oxygène pour alimenter cette flamme. Souffle par l'oxygène du Saint-Esprit, Seigneur, et alimente cette flamme. Que ça devienne un brasier tellement puissant que depuis là-haut, tu vas le voir et tu vas venir habiter au milieu de nous. Alors, je vous appelle à la prière. Aujourd'hui encore, ne nous jugeons pas les uns les autres. Ne regardons pas à notre passé. Regardons à notre avenir et à notre futur. Ce que l'Éternel attend de nous pour demain. Pour un temps encore, Seigneur, fais-nous grâce dans ton immense bonté. Permets-nous de revenir à toi de tout notre cœur, de tout notre être et de toute notre force. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que tout chemin, que tout sentier tordu soit redressé par ta main et devant toi et pour ta gloire, pas pour la mienne, pas pour celle de ma religion, pas pour celle de ma dénomination, pour ta gloire seule. Et que nous puissions te servir dans la joie et l'amour que tu mérites, car tu nous as aimés en premier, Seigneur. Seigneur, on veut plus se contenter d'une tiédeur, on veut être bouillant, ravive la flamme, emploie le tisonnier, Seigneur, dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos êtres personnels, afin que nous puissions marcher en justice et en vérité, dans ta présence et pour ta gloire. Du matin au soir, Seigneur, que nos bouches soient remplies de tes cantiques, de tes louanges, d'adoration, Seigneur, qui t'est due, Seigneur, parce que, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Et Seigneur, on veut plus contenter, Seigneur, d'être des sacrificateurs avec un pied dans le temple de la Rome et de la Grèce antique et avec un pied, Seigneur, dans ton temple, Seigneur. Seigneur, on veut marcher à pieds joints dans ton temple, Seigneur. Et Seigneur, on te demande pardon, Seigneur. Encore aujourd'hui, Seigneur, nous en sommes là à te demander pardon, Seigneur, pour nos fautes, pour les fautes de nos pères, Seigneur. Parce que, Seigneur, on veut vivre pas selon une culture d'homme, pas selon une culture humaine, mais selon la culture qui est dans les cieux, Seigneur. Celle que toi, Seigneur, tu désires, celle que toi, Seigneur, tu vis, Seigneur. Parce que toutes choses que tu nous as données en bas, Seigneur, sont des représentations de ce qu'il y a dans les cieux. Tu l'as dit à Moïse, fais selon le modèle que je t'ai montré dans les cieux. Fais tout à l'exacte représentation. Et de cette manière, Seigneur, déjà, en avant-première, en avant-goût, on peut goûter à ton royaume ici-bas. Même si les scories du monde, même si les cendres du monde, même si le monde veut nous couper l'oxygène, Seigneur. Bien toi, Seigneur, tu ravives et aujourd'hui tu souffles, Seigneur. Souffle, Seigneur, des quatre vents, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur tous mes frères et sœurs, Seigneur, ici réunis en ce jour. Souffle sur mes frères, Seigneur, qui ne sont pas réunis ici, mais qui sont réunis aussi en ce jour dans d'autres assemblées, qui se sont levés, Seigneur, pour aller t'adorer, pour rendre un culte, Seigneur, au nom de Jésus, celui que tu as élevé plus haut que toute chose, Seigneur, celui que tu as revêtu de ta gloire après qu'il soit mort et ressuscité, Seigneur. Souffle, Seigneur, sur chacun d'entre nous, Seigneur. Souffle, Seigneur, par ton esprit, par ta ruah, Seigneur. Et Seigneur, unis-nous tous, Seigneur, afin que le monde, Seigneur, voie, Seigneur, afin que le monde dise, oh, regardez, eux, ils sanctifient le nom de l'Éternel, afin, Seigneur, que ceux qui demeurent dans les ténèbres voient ta lumière resplendissante en nous et qu'ils viennent se réjouir eux-mêmes, Seigneur, à ta lumière et qu'ils deviennent de notre nombre, Seigneur. Seigneur, mon cœur est dans la crainte, Seigneur, parce que je sais, Seigneur, parce que les signes que tu as placés dans le ciel nous montrent, Seigneur, que le temps des nations et le temps de la grâce qui va avec ce temps des nations touche à sa fin. Mais Seigneur, en même temps, je me réjouis, Seigneur. Je me réjouis parce que si le temps des nations touche à sa fin, c'est parce que toi, Seigneur Yeshua, tu t'apprêtes à venir poser tes pieds sur le mont des Oliviers, Seigneur. Et ce jour-là, Seigneur, je ne veux pas avoir de rougir devant toi, Seigneur, parce que ma culture et mon culte n'est pas à ta gloire, Seigneur. Mais ce jour-là, Seigneur, je veux par ta gloire et dans ta présence plier le genou devant le roi des rois et t'acclamer « Baruch haba b'shem Adonai ». Béni sois-tu, toi qui viens au nom du Seigneur. Toi qui viens, Seigneur, pour tous ces opprimés, pour tous ces enchaînés, Seigneur, afin, Seigneur, de proclamer un vrai jour, Seigneur, de liberté. Pour tous ceux qui sont dans ces ténèbres, pour tous ceux qui ont été abusés par la religion et qui ont été dégoûtés de toi par la même occasion, Seigneur. Oh Seigneur, viens délivrer, Seigneur, tous ces frères et sœurs qui demeurent dans les ténèbres, Seigneur. Souffle, Seigneur, souffle depuis au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Souffle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce temps de partage et de communion avec mes frères et sœurs. Merci pour cette assemblée de Betsalel qui nous fait le plaisir de nous accueillir. Encore, déverse ton onction, Seigneur, sur toute cette assemblée. Merci, Seigneur, pour les gens que tu as placés à la tête de cette assemblée. Donne-leur une double portion, Seigneur, de ton onction, afin qu'ils puissent, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, toujours mieux, Seigneur, tous ensemble, unis, Seigneur, bien qu'on puisse, Seigneur, continuer d'avancer pour le royaume qui vient d'en haut, pour la gloire de ton Fils qui a donné sa vie pour nous. Beshem Yeshua Meshicheinu, dans le nom puissant de Yeshua, de Jésus, notre Messie, Seigneur, nous te prions. Que la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen.